sera dans 25 minutes.
C'est au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Salut à toutes et à tous. Merci de faire le choix de VOA Afrique pour vous informer et vous divertir. À ce micro, je suis Mouamadou Koumfa, depuis le studio 9 de VOA à Washington, pour vous présenter à votre avis l'émission interactive de VOA qui vous offre la possibilité, chères auditrices et auditeurs, de donner votre point de vue sur les affaires du monde. Aujourd'hui, nous parlons de l'Angola, le MPLA, a remporté les élections législatives avec 51,17% des voix, donnant un second mandat au président sortant João Lourenço, selon les résultats officiels annoncés lundi. Cette victoire du parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975 survient dans un contexte de difficultés économiques dans ce pays pourtant riche en ressources naturelles. Mais on l'a appris aujourd'hui, l'UNITA, le principal parti de l'opposition, dit ne pas reconnaître les résultats de la commission électorale et déposera un recours suspensif, a indiqué son secrétaire général Alvaro Chikawamanga Daniel dans une déclaration vidéo enregistrée aujourd'hui. Que pensez-vous donc des résultats annoncés lundi et du règne ininterrompu du MPLA? Quels sont les défis qui attendent le président Lourenço? Merci à tous ceux qui nous ont laissé leurs commentaires et coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci également à ceux qui nous ont envoyé des messages vocaux sur notre numéro WhatsApp, +1 202 297 60 89. À présent, vous pouvez appeler le 001-202-205-26-33. Le numéro pour participer en direct, c'est 001-202-205-26-33. Vous aurez au bout du fil Keita Senoumou qui assure la réalisation de cette émission. Alors, on a reçu quelques commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique que je vais vous proposer de lire. Je vais vous lire un commentaire avant de retrouver Ben Benoît qui nous attend au téléphone. Il y a Benny Ernesto Mbengi qui dit « Je suis en Angola. Ici en Angola, les traces de la guerre sont encore présentes dans les esprits. Jusqu'à présent, pour la plupart des personnes qui ont vécu la guerre, la plupart de ces personnes votent pour l'UNITA. C'est difficile parce qu'ils ont soutenu l'apartheid. Ils nous ont imposé plus de 25 ans de guerre, de souffrance. Pour nous, Angolais, le MPLA, c'est plus que un simple parti politique. L'UNITA gagne dans les zones urbaines parce que la plupart des jeunes ne savent rien de la guerre. » Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs d'écrire de façon assez lisible et compréhensible, intelligible, pour que nous puissions lire vos commentaires à l'antenne. Alors, il y a Ben Benoît qui est déjà en ligne pour participer au débat. Salut Ben Benoît.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio VOA Afrique.
Voilà, merci de participer à cette émission. Alors, le MPLA vient une nouvelle fois de remporter les élections. C'est quasiment le cas depuis 1975. Qu'est-ce qui, selon vous, explique les victoires répétées de ce parti politique?
Oui, les élections partout ailleurs, c'est toujours normal, vous le savez mieux. Il n'y a jamais eu un président qui accepte juste de faire un mandat. C'est seulement que nous avions connu aux États-Unis et juste après, vous avez vu même ce qui est arrivé pour l'affaire Joe Biden et Donald Trump. Mais la première des choses, je vais féliciter le président qui a juste eu sa victoire. Et je lui demanderai vraiment de comprendre c'est quoi eux. C'est pas seulement de travailler sur le plan politique, c'est valoriser, devenir trop populaire ou soit faire une bise dans le monde pour son nom. Mais il doit connaître que le défi qu'il attend, il est lié ou ne pas être lié, il est passé, il est président, d'accord, c'est une institution de la République que nous devons respecter. Mais lui doit connaître c'est quoi est juste la population, c'est quoi est le besoin de la population, qu'est-ce qu'il doit faire pour que la population puisse vraiment l'intégrer dans leur cœur, puisse vraiment adhérer dans sa vision et comprendre c'est quoi la façon dont les gens doivent vivre. Vous le savez, en Angola, il n'y a pas les droits de l'homme. Est-ce qu'il peut aussi faire l'effort que les droits de l'homme puissent s'impliquer dans l'Angola? Si vous voyez que vous êtes étranger là-bas, on appelle des Katundu. Katundu qui veut dire un fou. C'est-à-dire, quand tu n'es pas angolais, tu es un étranger en dehors d'être angolais. Tu es un Katundu, tu es, je ne sais pas combien de mots qu'on peut utiliser. Si on cherche à te taper par le DEF qui sont là, c'est-à-dire la police qui est là, vraiment, tu vas voir que non, tu es marginalisé, tu es tabassé comme un cochon et des fois peut-être inhumainement. Ce que nous devons lui demander, c'est vraiment de bien servir la population et de lever son pays à un autre rang qui ne plus être toujours critiqué d'une manière négative sur le ski mondial. Voilà ce que je vais vous demander comme président à la tête de l'Angola. Et en dehors de cela, je vais aussi jeter des fleurs parce que vous avez choisi un bon thème qui pourra aider à d'autres présidents de comprendre c'est quoi est leur mandat et c'est quoi est leur mission vis-à-vis de la population qu'ils dirigent.
Voilà, Benoît.
Je cite.
Oui.
Oui.
Il y a le président Lourenço, hein, qui y a engagé une lutte contre la corruption. Il a même d'ailleurs, la justice a d'ailleurs visé, hein, certains des enfants de son prédécesseur qui est décédé le mois dernier en Espagne. Est-ce que vous ne pensez pas que cette lutte contre la corruption a joué en sa faveur?
Oui, la lutte contre la corruption, là je rentre d'abord en RDC, comme vous le savez. Le président Félix Tshisekedi est venu ici avec ses slogans en lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, tout comme ça. Et aujourd'hui, si vous regardez, M. Kamere, qui a été juste condamné au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré, il vient de rappeler, si je ne sais pas, ta liberté. Et aujourd'hui, il joue à un homme libre. Pas même un mois, vous l'avez dit, à côté du chef de l'État. C'est que je vais vous dire que ce n'est pas des slogans qui doivent faire du président un homme célèbre, un homme d'État. Mais non, c'est ce qu'il lui a plu, c'est ce qu'il doit apprendre aux gens et ce qu'il doit donner aux gens la confiance à ce chef de l'État pour que nous puissions comprendre c'est quoi, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'il avait fait, cela. Moi, je vais dire, cela, ce sont des amalgames, ce sont des théâtres de chez nous. Hein? Combien sont en prison depuis qu'il a fait arrêter les enfants de ses prédécesseurs? Combien sont en prison? Ils sont déjà libres. Ils sont là en train de vaguer à leurs préoccupations. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont en train de monter pour se faire de base un peu sur le plan mondial dans la politique. Mais la seule chose de faire, quand vous dites quelque chose et vous le faites. Mais quand vous dites que vous ne faites pas, ça vous commencez à tourner de pièces théâtrales. Là, ce n'est plus encore ce que vous avez dit. Or, un homme normal, c'est celui qui respecte ses paroles.
Voilà, merci Ben Benoît, vous êtes à Kinshasa, vous êtes un fidèle auditeur de VOA Afrique. On va voir ce qu'en pense Archiduc Théodore qui est au Tchad. Salut Archiduc Théodore.
Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde.
Voilà, vous vous dites que la victoire acquise par le MPLA est sur la base du travail fait par le défunt président Eduardo dos Santos. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, M. Théodore?
Oui, parce que pour moi, à une certaine période, Eduardo dos Santos était à la fin de son règne et il faudrait un prolongement. Et son prédécesseur a profité des expériences de ce parti-là pour se hisser au niveau international et national. Et il a en profité pour assainir tout ce qui a trait avec la corruption. Et c'est ça le seul point qu'on peut dire différent ou bien. Un point en matière d'addition qui l'a propulsé vers l'avant. Mm-hmm. Parce que son prédécesseur a tout fait, mais il n'a pas pu combattre effectivement la corruption.
Voilà. Mais justement, Archiduc Théodore, le constat, c'est que dans les grandes villes, hein, l'opposition a gagné du terrain. C'est d'ailleurs l'un des scrutins les plus serrés, hein, de l'histoire du pays, parce que là-bas, les gens estiment qu'ils ne jouissent pas assez des fruits de la croissance. C'est un pays très riche, l'Angola. Ils ont du pétrole, ils ont beaucoup d'autres matières premières, mais il y a une pauvreté rampante dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que cette situation-là peut aider l'UNITA ou un autre parti d'opposition à prendre le pouvoir un jour? Le MPLA, comme on l'a dit en titre, est-il indétrônable?
Oui, l'Angola est d'abord l'un des pays les plus riches en Afrique, où la pauvreté côtoie les richesses. C'est-à-dire, nous avons une population dans son ensemble qui ne profite pas de cette richesse-là, parce que cette richesse est détenue dans les mains d'une certaine minorité qui en fait ses biens propres. Alors c'était le combat contre l'inégalité fabriquée là qui a apporté de la valeur ajoutée à l'opposition. Mais comme vous l'avez énoncé, la victoire de MPLA, c'était une victoire de justesse, parce que on fait référence à l'ancien bras solide Eduardo dos Santos, qui a outillé ce parti, a donné des moyens aussi à donner de la popularité. Mais si il suffisait seulement de mettre l'actuel régime avec l'opposition sur le même diapason, je suis sûr et certain que les résultats vont basculer du côté de l'opposition, qui pourra profiter de l'inégalité de la répartition des richesses de l'Angola entre tous ces pays et ces richesses qui sont détenues dans les mains de quelques minorités.
Voilà, merci beaucoup Archiduc Théodore pour votre participation à cette émission. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Il y a par exemple Aruna Traoré qui est au bout du fil. Salut Monsieur Traoré, ça va très bien. Merci de participer à cette émission. Alors aujourd'hui on parle de l'Angola, et vous, hein, vous nous avez dit sur la page Facebook de VO Afrique que ce n'est pas surprenant cette victoire. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Aruna Traoré?
Ce qui me fait dire que c'est pas surprenant cette victoire du MPLA, dans la mesure où, vous savez, si on essaie de refaire un peu l'histoire, lors de l'acquisition de l'indépendance, il y avait deux tendances, l'UNITA et le MPLA.
Oui.
Donc le MPLA a toujours montré aux Angolais que c'est le seul parti qui est capable d'unir et de développer pour l'Angola. Donc c'est comme une sorte d'idéologie qui s'est installée, et que le MPLA essaie toujours de réanimer ça. Donc ça, leur victoire n'est pas étonnante. Mais je sais quand même, il y a une chose quand même qui est sûre et certaine, c'est que tôt ou tard, l'UNITA finira par prendre le pouvoir. Vous-même, vous avez constaté lors de ces dernières élections-là comment l'UNITA a perçu.
Voilà. Alors, Aruna Traoré, vous mentionné très bien hein, le combat historique mené par le MPLA et son président Dos Santos. Voilà. Mais aujourd'hui, et l'UNITA. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une grande partie de la jeunesse angolaise qui forcément n'a pas vécu ces choses-là. Mais qui continue à accorder sa confiance au MPLA. Comment expliquez-vous cela?
Comment moi j'explique ça? C'est toujours la même dynamique qui est là. Vous savez, lorsque Jonas Savimbi a été tué, il y a eu une guerre qui a conduit à la mort de Jonas Savimbi. Je crois que c'était en 2004 ou 2005. Donc, le MPLA, sous la direction, bien avant José Eduardo dos Santos, Agostinho Neto et José Eduardo dos Santos, ils ont créé une sorte d'idéologie qui continue toujours de hanter les Angolais pour leur faire croire que le MPLA est le seul parti capable de diriger, de développer et de... vous savez, en Afrique ici, chaque parti a une idéologie une idéologie qui est propre. Donc, à chaque élection, on fait, c'est comme une sorte de continuité dans l'histoire, qu'on essaye de réanimer ça pour
voilà.
Faire croire aux gens, parce que la base même de la politique, c'est l'idéologie, mm-hmm. faire convaincre la majorité de la population afin qu'ils puissent adhérer à votre cause.
Oui.
C'est ce que Lénine a dit dans une de ses livres. On peut tromper une population, une partie de la population, mais pas toute la population et à tout moment. Bon, en Afrique, c'est un peu le même cas ici. Pratiquement, c'est une réalité qui est commune à tous les partis politiques qui sont au pouvoir en Afrique.
Voilà.
Mais je sais quand même que la façon dont vos dignitaires sont en train de percer, c'est que c'est sûr et certain, dans 10 ans au maximum, Bolinita va parvenir au pouvoir. Ça, il n'y a même pas de doute.
Voilà. Merci beaucoup, Haruna Traoré. Hein. Il y a Haruna Baldé qui est à Dakar, au Sénégal, qui souhaite aussi participer au débat. Salut, Haruna Baldé.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Voilà, merci beaucoup. Alors, plusieurs auditeurs soulignent le fait qu'il y a une idéologie portée par le MPLA qui a survécu aux époques, aux générations, mais la réalité sur le terrain parfois est un peu difficile hein, pour les Angolais avec un pays qui est pourtant riche de matières premières, mais qui subit de plein fouet la pauvreté, les problèmes, les difficultés économiques qui se sont accentuées avec la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19. Alors, et vous pensez que c'est un problème de leadership? Donc, expliquez-nous cela, Haruna Baldé.
Oui, monsieur. Avant d'avoir de répondre à cette question-là, permettez-moi de faire cette remarque-là.
Allez-y.
Sur ces élections-là, comme ici au Sénégal, lorsque les élections locales, nous venons de sortir des élections. Ce que je remarque maintenant, c'est qu'il y a une différence entre les villes et les villages en quelque sorte ici mm-hmm. au Sénégal, parce que si on prend les résultats globaux, on sent nettement que c'est le monde rural qui a permis par ses pouvoirs de gagner les élections. Et je pense que si on va à l'Angola aussi, on saura nettement que le MPLA a perdu la capitale, Luanda. Et je pense qu'aujourd'hui il y a cette vague de changement, ce vent de changement qui part en Afrique, il y a levé de conscience. Maintenant, cela explique une chose, qu'il y a au monde rural, il y a l'accès aux réseaux sociaux qui est un peu limité, parce que voilà, j'ai vécu dans le monde rural, je connais ce qui se passe là-bas, les gens n'ont pas assez de temps, il y a un problème de l'électricité pour recharger les terrains. Mais juste pour vous dire que ce qui se passe en Angola, comme je l'ai dit, c'est un problème de l'électricité, parce que l'opposition était unie autour d'une idéologie. Et elle allait doublonner l'MPLA en partie historique et c'est difficile de battre ces partis historiques-là. Mon prédécesseur Arnaud Traoré l'a dit en prenant l'exemple de l'Afrique du Sud avec l'ANC qui reste en partie indéblonnable en Afrique du Sud. Et c'est des partis qui ont un fondement solide et qui sont très difficiles à démanteler. Je pense que là, pour les bousculer, il faudra une union forte et un leadership avéré autour. Dans l'idée, quelqu'un qui peut vraiment incarner l'envie de la population. Et parce que l'Angola, c'est le paradoxe. Il faut savoir que c'est le même parti qui vise l'Angola depuis les indépendances jusqu'à le changement de personne. Mais c'est la même idéologie qui continue. Et on sait qu'il y a un peu partout, il y a la dictature des fois, on divise le pays avec main de fer, la guerre qui se fait ce pays, comme il l'a dit avec Jonas Savimbi. Je pense que. Mais ça va venir, ça va venir petit à petit pour qu'il y ait un changement, parce que aussi, il faut qu'il y ait un changement d'idéologie à la tête d'un pays pour qu'il y ait un avancement aussi. Imaginons que depuis l'indépendance, nous vivons la même idéologie, voilà, comme en Afrique australe, au Cameroun, dans d'autres pays. Je pense qu'il faudra à un certain moment changer. Et qu'il y ait une alternance démocratique pour sentir quelque chose de nouveau dans un pays.
Voilà, mais Haruna Baldé, vous avez bien fait de souligner hein, que l'opposition, que ce soit en Angola ou ailleurs, réalise souvent des percées dans les centres urbains, en ville, et que dans les zones rurales, le parti au pouvoir continue à dominer. Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition ne s'implante pas assez? La plupart du temps, les leaders se contentent de faire des campagnes dans des grandes villes. Elles s'investissent massivement en ville et abandonnent les zones rurales. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la faute des opposants qui semblent délaisser les zones rurales ou ne pas assez investir dans ces milieux-là?
Bien sûr. D'une part, on sent aussi que l'absence de l'opposition dans le milieu rural, parce que des fois, elle se concentre dans le milieu urbain, voilà, en animant des conférences, des points de presse, et en oubliant le monde rural, alors que c'est un élément essentiel aussi dans la quête de suffrages, dans la quête des voix, il faut descendre au milieu rural. Et je rappelle, en 2012, lorsque Macky Sall a voulu diviser le pays, il a fait le tour du Sénégal, il passait dans les campagnes, il passait les nuits dans les campagnes. Et je pense que aussi, cette stratégie politique, il faut adapter. Il ne faut pas minimiser une voix, ça vaut de l'or. Une voix, c'est de l'or, comme on dit, en matière de points dans les études. Et je pense que c'est la même chose. Et autre chose aussi, il faut comprendre que le monde rural n'a pas trop ce temps-là de d'écouter les discours des politiciens. Et souvent, c'est les champs, l'agriculture, l'élevage et autres activités qui les intéressent. Et là, le parti au pouvoir, tant que les politiciens sont en train de régler, ils n'ont pas ce problème-là, ils continuent de renouveler leur confiance au parti au pouvoir. Et comme vous l'avez si bien dit, je pense que il est temps qu'on l'opposition descend jusqu'au dernier village, le village le plus reculé d'un pays pour pouvoir obtenir quelque chose.
Voilà. Merci beaucoup, Haruna Baldé, depuis Dakar. On va prendre un dernier auditeur. Il y a Diallo Tierno, Oumar Diallo, qui nous attend à Conakry. Salut, Diallo.
Oui, bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Voilà. Alors, vous avez bien fait de le faire remarquer sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous avez dit victoire de justesse à saluer pour le MPLA, mais le score obtenu par l'UNITA est aussi un grand pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette percée de l'UNITA?
Bon, je pense que je trouve dans plusieurs... on peut les expliquer en deux manières, parce que c'est longévité d'un MPLA au pouvoir. Le peuple assure du changement. Et Fekondo, comme le candidat de l'UNITA, a mené une campagne contre la corruption. Donc, vous savez, la nouvelle génération aujourd'hui opte pour une transparence contre l'élite, contre la corruption. C'est ce qui fait que Costa Junior a obtenu des voix et remporté dans les grandes villes. Notamment à Luanda, mais très malheureusement, vous savez, comme ça a été toujours le cas en Afrique, les partis de l'opposition arrivent en tête dans la capitale et dans les zones urbaines, mais toujours dans les campagnes, dans les villages reculés, c'est le parti au pouvoir parce que c'est eux qui ont des administrateurs de ce côté, c'est eux qui ont la police, la gendarmerie, c'est eux qui ont l'influence sur les religieux et tous les chefs coutumiers, c'est eux qui appellent à voter pour le parti au pouvoir. C'est pourquoi cette fois-ci, MPLA a remporté les élections, sinon l'alternance aurait eu à avoir en Angola.
Voilà.
Mais je pense que dans sous peu, ils vont essayer de gérer leur percée parce que c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi certains leaders qui perdent quelques années après. Ils glissent. Donc je pense que l'État ne le fera pas parce que, vous savez, MPLA, c'est une partie vraiment aussi compliquée à combattre en Angola parce que c'est comme si elle fait idéologique. Seulement si on parle de mouvement populaire pour la libération d'Angola, vu que la manière dont l'Angola a obtenu l'indépendance, la manière dont ce pays a survécu à beaucoup de crises, je pense que si certains se réfléchissent, ils diront ouais, c'est un peu là, parce que, comme vous le savez, le Joao Eduardo Santos qui vient de partir récemment, on le fait nommer la secte de la paix, parce qu'à un moment donné, tout le monde pensait que ce pays n'allait pas revenir. Ce pays, c'était fini lorsque ce pays était engagé en bras de fer, en guerre.
Voilà. Et un pays qui a connu tout à fait. Diallo Thierno, merci beaucoup. On a saisi votre point de vue. C'est avec d'ailleurs vos propos que nous mettons un terme à cette émission, cette édition de À votre avis, qui était réalisée par Keita Senoumou et notre ami Peter, qui était à la technique. Pour écouter cette émission, connectez-vous sur notre site web www.voafrique.com. Dans une dizaine de secondes, une édition complète d'informations avec à la présentation Eric Manirakiza.